Bonsoir. Province du Kasaï Central, les quatre militaires ont perdu la vie tôt ce dimanche à Kananga dans une attaque de présumés miliciens Kamuina Nsapu contre un poste de l'armée situé non loin de l'aéroport de Lungandu. Selon des sources onusiennes, les assaillants se sont volatilisés dans la nature juste après leur forfait. Quelle analyse faire de cette situation? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec Maître Adrien Iloakwe. Il est président provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à CAJ en sigle. Bonsoir Maître Adrien Iloakwe.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les amis auditeurs.
Joseph Nkashama, président du conseil des sages du rassemblement de l'opposition et membre du G7 Kasaï Central. Bonsoir Monsieur Joseph Nkashama.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les fervents auditeurs de la radio Kabyle.
Timothée Chaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Bonsoir Monsieur Timothée Chaombo Soucha.
Bonsoir cher ami, bonsoir à tous les auditeurs de radio Kabyle.
Tous nos efforts pour avoir dans cette émission un officiel se sont avérés vains. Bienvenue à tous dans cette émission.
Continuez à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Des coups de feu ont été entendus ce dimanche matin aux environs de l'aéroport de Lungandu à Kananga. Selon des sources onusiennes, des présumés miliciens ont attaqué un poste des militaires et tué quatre soldats. Blaise Nongala nous relate les faits.
La partie est de la ville de Kananga s'est réveillée dimanche dans la panique avec des coups de feu attendus aux alentours de l'aéroport de Lungandu. Selon des sources onusiennes, des présumés miliciens auraient attaqué un poste de l'armée et tué quatre militaires avant de disparaître dans la nature. La police provinciale avait confirmé l'échange de tirs dans ces coins sans pour autant donner d'autres précisions. Joint au téléphone, le commandant du secteur opérationnel de FARDC s'est réservé de tout commentaire. Les activités paralysées avaient repris quelques heures après à l'aéroport de Lungandu où un hélicoptère de la MONUSCO avait même embarqué la délégation du gouvernement provincial du Kasaï à destination de Tshikapa. Malgré ces retours au calme aux environs de l'aéroport, la circulation entre les centres-villes et l'aéroport de Lungandu était restée tout de même timide. Sachez par ailleurs que dans la partie ouest de la ville, les activités se déroulaient comme tous les dimanches. De nombreux fidèles avaient fait les déplacements de leurs lieux de culte. Les taxis et taxi-motos roulaient également aisément. De Kananga, Blaise Ndongala Mayanda, Radio Okapi.
Merci à vous, Blaise Nongala. Maître Adrien Lobakwe, je rappelle que vous êtes président provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice en cage, plutôt à cage en sigle. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement à Kananga ce dimanche matin? Nous rappelons que vous êtes dans la ville de Kananga.
Oui, merci beaucoup, Guy Maté, pour l'invitation et pour la parole que vous m'accordez. Il faut dire que Blaise Nongala a été fidèle juste à présent. Tout le monde est en train de se poser mille et une questions pour essayer d'avoir une version vraie de ce qui est arrivé hier du côté de l'aéroport de Lungandu, parce que nos autorités ne communiquent pas. Donc c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une véritable spéculation sur toute la ville de Kananga, chacun avec son information, chacun avec sa version des faits. Donc, tout le monde a été surpris, brutalement, lorsqu'on a dit qu'il y avait un crépitement de balles du côté, Axe Tougouloukou. Donc, c'est une localité non loin de l'aéroport de Kananga. Voilà, mais il y a lieu de signaler, Guy Maté, que il y avait déjà une rumeur qui circulait dans la ville de Kananga que le présumé milicien préparait une certaine attaque sur la ville de Kananga. Et nous de la CAJ, avec nos amis qui travaillent pour notre compte sur cet axe-là, lorsque nous les appelions, ils nous disaient que ces folles rumeurs sortait du côté Chimpidinga. Bon, lorsque on voulait un peu en savoir plus auprès des autorités, C'est comme si c'était devenu une stratégie auprès de nos autorités. Vous allez avec des informations. C'est une véritable sourde oreille. Bon, voilà ce qui s'est passé. Tout le monde a constaté le dégât et la CAJ est en train de condamner avec fermeté cette barbarie de faire lorsque on s'attaque au poste des militaires pendant que le militaire était en train de surveiller l'entrée de la ville. La CAJ ne peut pas vraiment croiser les bras pour
souligner cette grande histoire. Maître Adrien, vous aussi, en dépit du fait que vous êtes dans la ville, vous continuez aussi à vous poser des questions au sujet de la version, la vraie version, n'est-ce pas, de cette attaque. Et 4 militaires tués près de l'aéroport Lungandu, zone censée être surmilitarisée puisque stratégique. Comment vous comprenez cela? C'est vrai que tout le monde se pose des questions. Comment vous comprenez qu'une zone qui est surmilitarisée, n'est-ce pas, dans une zone qui a connu des conflits récents, et que les militaires soient attaqués et tués avec cette facilité?
Oui, Guy Maté, je pense que je venais de vous dire, parce que dans tous les états sérieux du monde, la vraie version ne peut sortir que de nos autorités, les autorités qui ont la gestion de la res publica. Mais chez nous ici, donc voilà, personne ne veut communiquer. Mais à notre entendement, il y a lieu de signaler qu'il y a de cela 4 ou 5 jours, la CAJ était montée au créneau pour faire, donner une sonnette d'alarme en faisant dire à nos autorités qu'il y avait un certain malaise qui s'est passé dans la ville de Kananga. Tout a commencé, selon la CAJ, en faisant l'évaluation sur la conférence sur la paix et le développement qui avait eu lieu l'année passée dans la ville de Kananga. La CAJ s'était rendue compte que les résolutions issues de cette conférence n'étaient pas appliquées, étaient jetées tout simplement dans des oubliettes. Deuxièmement, la CAJ avait aussi tiré l'attention des autorités que ce petit malaise-là provenait du fait que au jour d'aujourd'hui, si vous posez la question même à un petit enfant à Kananga, lorsqu'il y a un petit problème de dette, lorsqu'il y a un règlement de compte, on saisit les cours des tribunaux, on accuse l'autre là que c'est un milicien, ou soit il fait partie de ce mouvement-là lorsque l'espace Kassai était en ébullition. La CAJ s'était rendu compte que c'était une très mauvaise stratégie. Pourquoi? Parce que ça pouvait remuer encore le couteau dans la plaie du fait qu'il y avait un groupe de miliciens qui avaient déposé leurs armes suite à l'appel de nos autorités pour leur demander d'écouter, vous pouvez déposer les armes. Au jour d'aujourd'hui, recourir pour chasser encore ceux-là en les accusant qu'ils étaient dans ce mouvement-là, c'était injuste. Et nous avions même donné certains cas de personnes arrêtées du côté Matamba, entre autres un certain Chimanga, un certain Chauke. Donc ces gens-là étaient reprochés du fait d'avoir administré des coups à un policier. Et c'est ces policiers-là qui s'étaient plaints. Mais arrivés à Kananga, ils ont été transformés en miliciens. Lorsque je suis allé m'enquérir de la situation, on me dira que non, écoutez, au mois de mars de l'année 2017, il faisait partie du mouvement Temuina Sapu. Bon, j'ai fait raisonner au magistrat instructeur, moi, que mais vous oubliez qu'il y avait certains miliciens qui étaient présentés au niveau des stadiums qui avaient déposé d'eux-mêmes les armes. Mais au jour d'aujourd'hui, faire la chasse aux sortiers, ça risque de créer encore des problèmes qui ne sera pas géré par n'importe qui. Bon, au jour d'aujourd'hui, tout le monde est en train de constater tout simplement les dégâts. Le vrai problème, c'est quoi? Personne n'en sait quelque chose. Qu'est-ce qui est à la base de toutes les menaces qui provenaient?
Merci, Maître Adrien.
Oui.
Merci, on va vous redonner la parole. Le temps de donner la parole à Joseph Kachama. Joseph Kachama, je rappelle que vous êtes président du Conseil des sages du Rassemblement de l'opposition et secrétaire exécutif du MSR, membre du G7, Kassai Central. Quatre militaires tués après une attaque de présumés miliciens à un poste des FRDC. Comment avez-vous réagi en apprenant cette nouvelle?
Merci, Guy Maté, d'abord pour les choix portés à ma modeste personne. Je dis aussi merci à tous les auditeurs de la radio Capi. Je salue tous les co-débatteurs qui sont avec nous dans le studio de la radio Capi. Mais je voudrais aussi, avant toute chose, profiter de votre micro pour présenter les condoléances les plus émues aux familles éprouvées parce que les âmes de ces illustres disparus reposent en paix. Pourquoi je dis cela? Vous serez d'accord avec nous, Guy Maté, que la vie humaine est sacrée. Quels que soient les temps et les circonstances, la vie humaine doit être protégée et gardée parce que la Constitution de la République, qui est la loi fondamentale, nous enseigne qu'il faut protéger la vie humaine. Effectivement, quand nous avions appris ce que vous venez de dire tantôt, et la première lecture que nous avons faite, c'est d'abord, nous avons regretté pour cette mort brutale, cette mort tragique, de ce qui laisse les familles entières dans le souci. Et pourtant, la province vient de sortir d'une grande crise, la crise qui a plongé la province du Kassai central vraiment dans un environnement très très compliqué, parce que le Kassai a perdu, que ce soit sur le plan des ressources humaines, que ce soit sur le plan des infrastructures, que ce soit sur le plan économique, le Kassai a perdu. Raison pour laquelle, en apprenant cette nouvelle, semble accepter que l'on vous dise que nous n'avons pas été du tout contents, et raison pour laquelle nous disons que c'est vraiment un mauvais comportement, un comportement qu'il faut réprimander, un comportement qu'il ne faut pas soutenir, parce que de tels comportements ne doivent pas continuer dans la vie des Kanangas et surtout dans la province du Kassai central qui vient de sortir de la crise multiforme.
Oui, vous déplorez ces pratiques. Monsieur Joseph Kachama, il y a des personnes qui pensent que cette attaque était une surprise, comme il y en a aussi qui affirment que c'était prévisible compte tenu des événements qui ont précédé, c'est notamment cet affrontement entre miliciens et forces de l'ordre à l'aéroport le 2 janvier dernier. Et il y a aussi l'assassinat d'un taximen moto au niveau de l'arrêt Bikuku, ainsi que l'arrestation des présumés miliciens au quartier Mouimba. Et vous avez suivi Maître Adrien Lobakwai de Dakaj qui affirme qu'il y avait des rumeurs, n'est-ce pas, dans la ville de Kananga, selon lesquelles les présumés Kamouinansapu ou les présumés miliciens préparaient une attaque. Pour vous, est-ce que c'était quelque chose, c'était une surprise ou c'était prévisible?
Merci encore une fois de plus, Fimaté. Moi, je dirais plutôt que en dépit de tout ce que l'on peut dire, mais allons-y reconnaître tout simplement que le pouvoir public a un pouvoir, il a une autorité. L'autorité du pouvoir public, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la province du Kassai central est devenue théâtre des affrontements, théâtre de guerre fratricide entre les présumés miliciens, entre les forces de l'ordre. Mais cela ne peut pas du tout plus détourner notre attention, étant donné que le pouvoir public a une mission. La mission régalienne, c'est de s'assurer de la sécurité des personnes et de leurs biens. Je voudrais revenir sur les cas que vous venez de relever tantôt. Monsieur Guy Maté, ici, dans la province du Kassai central, il arrive par moments que nous puissions déplorer la situation de l'insécurité. Cette insécurité, à notre sens, c'est une insécurité orchestrée. Ça peut être soit par le pouvoir public ou soit une insécurité orchestrée par le militaire. Parce que ce que vous venez de relever en ce qui concerne un taximen motard au niveau de l'arrêt des bus Bikuku, là c'est une insécurité orchestrée par le militaire qui a trouvé un taximen motard arrêté et il a commencé à verser les balles sur les corps de ces derniers.
ce qui s'est passé, c'est vrai, il est vrai qu'il y a eu de jeunes gens qui étaient enrôlés dans les mouvements insurrectionnels, mais le mois passé, nous avons eu ici à Kananga une conférence sur la paix, et nous avons estimé pour notre part que cette conférence sur la paix pouvait apporter des solutions aux problèmes de la crise. Mais notre grande surprise, si aujourd'hui nous apprenons qu'il y a encore des mouvements, de tels mouvements qui se soulèvent encore au niveau de l'aéroport, surtout un endroit trop stratégique, un endroit qui doit être gardé par les forces de l'ordre, voilà pourquoi nous disons qu'il y a lieu de regretter et aussi de condamner ce comportement qui est vraiment un comportement irresponsable, mais aussi et surtout nous interpellons le pouvoir public par rapport à sa mission régalienne de pouvoir protéger les vies humaines, Joseph, parce que cela est garanti par la Constitution de notre pays.
Joseph Kachama, nous venons d'apprendre qu'au moment où nous parlons, il y a des affrontements autour de l'aéroport de Kananga. Est-ce que vous confirmez ces informations?
Non, sincèrement, jusque ce soir, je n'ai pas cette information-là, je n'ai pas précisément cette information-là, mais c'est surtout plutôt que si nous l'apprenons de votre part, et il nous restera peut-être à pouvoir vérifier pour pouvoir dire quoi que ce soit là-dessus.
Voilà, la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement de l'espace kasaïen a été organisée au mois de septembre dernier pour notamment éviter des situations comme celle qui s'est produite hier à Kananga. Près de trois mois après cette conférence, peut-on dire que ce forum n'a pas produit les résultats escomptés? Vous avez suivi Maître Adrien de la CAGE qui estime qu'aucune des recommandations issues de cette conférence n'a été appliquée.
Oui, mais Monsieur Guy Maté, nous sommes de cet avis-là, parce qu'au sortir de cette conférence, nous avons d'abord regretté la précipitation dans laquelle les choses ont été organisées par le comité organisateur de la dite conférence. Pourquoi nous disons ça? Quand on vient avec un mécanisme de pacification de l'espace, il faut d'abord faire un effort pour mettre toutes les parties en présence, que les uns et les autres disent de quoi, quel avait été leur mécontentement, et en fait, le médiateur verra dans la mesure du possible quelles sont les solutions qu'il faut envisager pour décrisper la situation. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, il ne suffisait pas seulement que l'on organise la conférence et que l'on s'arrête seulement au niveau de l'organisation. Il serait souhaitable qu'après avoir organisé la conférence, que l'on mette en place un mécanisme de suivi des résolutions de la conférence. Vous serez d'accord avec nous qu'au jour d'aujourd'hui, aucun mécanisme par rapport à tout ce qui avait été ressorti de cette conférence comme résolution n'a jamais été d'application depuis que les amis sont rentrés à Kinshasa jusqu'à ce jour. Raison pour laquelle nous disons que ça a été un travail qui pouvait être bien fait en amont, mais qui avait été très mal organisé, raison pour laquelle aujourd'hui nous nous disons que si du moins ce travail avait été bien fait, nous ne pouvons pas regretter ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Merci. Et je l'ai dit pour la troisième fois que c'est un comportement irresponsable et c'est un comportement que nous ne pouvons pas encourager.
Merci Timothée Chaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Votre analyse par rapport à cette attaque contre un poste de FARDC près de l'aéroport de Lungandou à Kananga.
Merci, cher Guy Maté, de m'associer à ce débat une fois de plus. Nous avons soulevé sur ce studio de Radio Capi de la situation, et même lorsque la conférence était organisée à Kananga, parce que nous nous sommes beaucoup posé la question de savoir si toutes les résolutions seraient d'application et si la solution sera trouvée. Parce que vous parlez de présumer comme un assaut. De prime abord, il faut d'abord identifier les véritables assaillants. Qui sont-ils? Sont-ils de véritables Kamwina Sapu? Est-ce que ce sont des Badamoura? Parce qu'il faut dire que dans l'espace Kasaï, il y a aussi les Badamoura qui est une milice. Est-ce qu'il s'agit effectivement de Kamwina Sapu? Et s'il arrive que les informations confirment qu'il s'agit de Kamwina Sapu, alors deux hypothèses se présentent. La première, c'est que soit la question de Kamwina Sapu n'est pas complètement réglée, ni sur le plan politique, avec un dialogue qui, les artistes qui devaient prendre en compte toutes les couches sociales concernées, pas seulement se limiter, comme on a toujours vu, à quelques chefs coutumiers cocotés de par-ci par-là, mais dont on ne va pas à l'intérieur, dans les couches des populations, de la jeunesse concernée, pour les impliquer dans ce dialogue. Soit que c'est des stratagèmes du pouvoir en place qui, comme vous le savez, multiplie des foyers de tension. Vous voyez qu'à un moment donné, à Kinshasa, on nous a pendant un mois et demi ou deux mois parlé de Bundu, Diamayala, de Bundu, Diakongo, de Nemwanda Nseni. À un moment donné, c'est disparu. À un moment, c'était les prisons qui étaient ouvertes. C'est des stratagèmes pour, d'une part, repousser le processus électoral déjà de 2018, le 23 décembre 2018, qui commence à s'amorcer. Est-ce que nous ne sommes pas dans les deux hypothèses? Pourquoi cette question? Parce qu'en réalité, pour moi, je me pose la question de savoir si les véritables Camerounais Sapou existent encore. Et s'ils existent, de quelles capacités ont-ils pour inquiéter les institutions de l'État et de toucher les installations les plus sensibles, que sont les postes de l'armée, non de l'aéroport? Encore que vous signalez ce soir que selon vos sources, il se pourrait qu'il y ait encore des affrontements. Et je me pose la question de savoir quel intérêt les Camerounais Sapou vont-ils lancer les attaques actuellement? S'agit-il de ceux dont le dialogue de Kananga n'a pas pris en compte? Sont-ils des gens qui vont lancer et je veux dire, remettre et communiquer les revendications demain? Et pour quelle finalité politique? Et même alors, quelle finalité vraiment les Camerounais Sapou peuvent et qu'est-ce qui vise ces assaillants? Viennent-ils alimenter, parce qu'il faut vous rappeler qu'à Kananga, il y a un procès qui peine à convaincre, viennent-ils alimenter le procès de présumés Camerounais Sapou à Kananga? Il faut rappeler ici qu'il y a des gens à Kananga, je veux dire des renseignants ou des témoins ou des présumés impliqués dans ce dossier qui se sont décidés, qui se sont prononcés de faire leur déposition devant la presse internationale. Voilà toutes les questions qui entourent la situation de Kananga. Et donc, on tombe une fois de plus, et je l'ai toujours dit sur les antennes de Radio Capi, on tombe dans ce que j'ai toujours dit, la responsabilité de l'État, l'incapacité de l'État et la complicité de l'État. Il s'agit de cela, il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que, au regard du contexte actuel, dites-moi la violence avec laquelle les Camerounais Sapou étaient attaqués, renvoyant autant plus d'un million 500 000 déplacés, avec des enfants non accompagnés. Dernier rapport de Ocha parlait dans les Kamonia, Kabungu, Kamako et même en Angola, plus de 30 000 femmes seules, femmes mariées avec enfants, seules, ça veut dire que nous avons plus de 30 000 hommes morts qui sont dans les fausses primes. Donc les 3 500 victimes de Kananga sont sous-évaluées au regard des rapports qu'on voit, selon la coordination des ONG.
Timothée de Soutcha.
Donc il se pose un sérieux problème. Oui,
il se pose un sérieux problème, comme vous le dites. Vous avez évoqué, n'est-ce pas, cette conférence sur la paix, la réconciliation et le développement de l'espace kassaïen qui avait été organisée au mois de septembre. Entre septembre, au moment de la tenue de cette conférence, et le mois de décembre 2017, il y avait une certaine accalmie. Et c'est à partir du mois de janvier que les violences ont repris. Et peut-on analyser cela comme, analyser cela par le fait qu'entre septembre et décembre, il y avait des attentes, n'est-ce pas, de la part de certaines personnes, mais qu'après, les gens se sont rendus compte qu'aucune des recommandations n'a été prise en compte. Et c'est ce qui pourrait expliquer, n'est-ce pas, ces regains de violences.
Exactement, c'est ce que j'ai soulevé dans les deux hypothèses. La première hypothèse, il s'agit de cette question qui n'a pas été résolue de façon politique. Politique par les assises de Kananga, qui, de mon point de vue, auraient dû prendre toutes les couches de concernées. Et que peut-être, que ceux qui s'expriment aujourd'hui pourraient, dans les jours qui viennent, déposer leurs revendications. Mais il faut dire aussi qu'il y a un élément important. Les assises de Kananga ont été un petit peu précipitées sans entrer dans les racines, parce qu'il fallait faire, au lendemain de ces assises, il fallait faire une communication politique aux Nations Unies. Vous avez vu le chef de l'État qui s'est exprimé là-dessus. Et que les résolutions, nous sommes quand même à la fin du mois, je crois au milieu du mois de janvier, les quelques mois dont le dialogue a été tenu, l'autorité de Kananga, avec les commissions qui ont été formées, devait faire le suivi de cela, des applications. Le désarmement créé avec les structures des Nations Unies, voire les centres de réédition où les Camerounais peuvent arriver, le mécanisme de réinsertion, etc. Mais il n'y a rien qui est fait jusqu'à présent, c'est pour cette raison. La première hypothèse de la non-prise en compte de toutes les couches concernées dans cette situation peut justifier le régain des tensions.
Oui,
et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte où les autorités multiplient les subterfuges pour repousser les calendriers électoraux.
Oui, Toujours dans le même ordre d'idée, Timothée Soutcha, les assaillants n'ont pas hésité, n'est-ce pas, à opérer avec des armes blanches contre des militaires qui savaient être bien armés. On a comme l'impression qu'ils étaient en train d'opérer sur un terrain qu'ils maîtrisaient très bien, et contre des personnes au sujet de qui ils étaient bien renseignés. Peut-on dire qu'ils avaient été aidés par des complices? Vous avez évoqué des hypothèses, notamment des stratagèmes, n'est-ce pas, de pouvoir en place pour repousser les processus électoraux.
Oui et non. Oui, parce que ça ressemble un petit peu, rappelez-vous la dernière attaque du camp des Nations Unies à Beni. C'est que ce sont des militaires qui venaient, et généralement qui connaissent bien, qui venaient prendre les rations au niveau de la base des Nations Unies. Et donc, on a vu les ADF, les prisonniers ADF, opérer, maîtriser le camp militaire des Nations Unies et massacrer pratiquement, tuer les 14 casques bleus. Aujourd'hui, et ils se sont volatilisés dans la nature. Aujourd'hui, c'est les cas maintenant ça pour les présumés qui vont opérer quasiment de la même manière, maîtrisant les coins et les postes de l'armée, opérer, frapper les militaires et se volatiliser dans la nature. Nous sommes en train de vivre ici une forme de Kamouélan Sapou qui utiliserait les méthodes des présumés ADF. Cette situation est une situation qu'il faut surveiller de près. J'ai dit non dans quel sens? Dans ce sens qu'il se pourrait que ce soit réellement les Kamouélan Sapou, je doute fort, mais qui n'ont pas été pris en compte dans les assises de Kananga, qui ont été des assises précipitées pour la consommation de la communication politique nationale. Cette situation, il faut la surveiller de près, aussi bien par les antennes des journalistes, mais aussi par les différentes populations. Et à Cage, ça ressemble fort bien à la situation du Nord Kivu. À Cage, a signalé des malaises au sein de la population. Rappelez-vous qu'au Nord Kivu, dans Beni, comme dans beaucoup d'autres territoires du Nord Kivu, on signale toujours par la société civile des malaises qu'il y a. Et on signale auprès des autorités qui ne prennent pas en compte cela.
Voilà, merci.
Mais l'autorité vient toujours constater les dégâts.
Après.
Et situation à déplorer.
Merci, Adrien. Maître Adrien Ilobakwei, il y a une réflexion pour vous qui vient de Lubumbashi.
Chouk Mouibiroa à Lubumbashi. C'est une négligence de trop pour notre gouvernement. Parce que dans un état sérieux, cette milice ne devrait même pas récidiver. Au regard de tous les mots qui pèsent sur eux, perdre inutilement 4 militaires, c'est beaucoup trop. Et ça doit révolter, surtout que les familles de nos voyants tombés ne seront pas sérieusement prises en charge par le gouvernement. Supposons que si cette milice se réorganise toujours pour perturber le climat de paix au Kasaï, ça profitera à tous ceux à ceux qui aimeraient que cette transition soit de nouveau prolongée. Et c'est ce qui justifie le relâchement du gouvernement dans la traque des miliciens à travers le pays.
Maître Adrien Lebakwai.
Oui, merci beaucoup Guy Maté. J'aimerais partager partiellement donc la réflexion de notre ami Franck de Lubumbashi, parce que je venais de l'épingler tout à l'heure pour dire qu'il y avait une certaine négligence, parce que l'autorité doit savoir que lorsqu'il y a une rumeur, et surtout ici, il y a aussi lieu d'attirer l'attention de notre service de renseignement, parce que le service de renseignement, même dans nos villages, il y a toujours. Donc, je pense qu'il y a un déficit à ce niveau-là qu'on pourra vite vraiment réparer. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Je vous ai dit que nous avions même les amis et certains cadres de la CAGE qui étaient dans ces actes-là parce qu'ils travaillaient pour le compte de la CENI. Ils ne cessaient de nous alerter et nous, à notre tour, on ne nous croisait pas les bras. Donc, on disait toujours haut et fort, mais il y avait toujours une certaine négligence. J'aimerais revenir sur ce que notre expert Timothée venait de dire. Il a aussi partiellement raison, parce que lorsqu'on essaye de mener un peu des investigations, nous avions comme réponse, ce sont des politiciens en mal de positionnement qui essayent donc de tirer les ficelles pour voir comment est-ce qu'il faut créer des troubles et prendre la situation du Kasaï comme un alibi pour qu'il n'y ait plus encore des élections. Parce que, rappelez-vous, la province, donc l'espace Kasaï, a connu l'opération d'enrôlement donc à la dernière minute, après toutes les autres provinces. Deuxièmement, Guy Maté, il faut dire que cette situation s'explique aussi, selon les enquêtes de la CAGE, par l'impunité. Le chef de l'État, lorsqu'il était au niveau de Kananga, il a insisté que cette conférence sur la paix, la réconciliation et le développement ne devrait pas être un podium où on pouvait donc encourager l'impunité. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas demandé à nos autorités pour que la justice soit faite? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de cibler les cas, ça et là. Or, lorsqu'il n'y a pas une vraie justice, lorsque la justice n'est pas mise en application pour réprimer certains actes barbares tels que nous sommes en train de voir, ça sera donc une répétition tout simplement parce que les gens peuvent se dire, écoutez, je peux me réveiller un grand matin, je vais là-bas, j'incendie, je vais là-bas, je décapite, je vais là-bas, je tue à balles réelles et je rentre encore dans ma cachette. Mais s'il y a une justice qui se lève pour sanctionner ce genre de choses, je pense que ça sera une lutte sans merci contre ces actes de barbarie qui sont des actes de trop. Et aussi, au-delà de tout ça, je pense que nos autorités doivent communiquer sur ce cas parce que la population veut avoir la précision. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui sont-ils. Est-ce c'est un mouvement insurrectionnel qui est en train de se créer? Est-ce ce sont le présumé Kamuina Nsapu? Jusque-là, la question reste pendante.
Merci, Monsieur Joseph Nkashama. Il y a pour vous une réflexion, n'est-ce pas, qui vient de Lubumbashi une fois de plus.
C'est Patrick Ndouli qui a commandé pour Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Cette situation vient de mettre en cause les efforts qu'a déployé le gouvernement pour mettre fin à ce phénomène et cela donne raison à certains notables du coin qui ont fustigé la manière dont le gouvernement a procédé pour rassembler les fils et filles du castel, en impliquant les gens de Kinshasa qui n'avaient rien à voir avec ce conflit. Je pense, à mon avis, que le gouvernement devra réorganiser ses assises de paix et réconciliation pour permettre à ce que ce phénomène qui a endeuillé plusieurs familles puisse se refaire surface et perturber les élections qui se pointent à l'horizon et servir de prétexte à ceux qui font semblant de vouloir aller aux élections.
Joseph Kachama.
Merci Guy Maté. Je suis content avec la réflexion de notre ami de Lubumbashi. Ça, nous l'avons dit. Et nous pouvons aussi profiter de votre micro pour le répéter. Il est vrai que, de manière trop claire, sans peur d'être contredit, les assises sur la conférence sur la paix et le développement n'ont pas été bien préparées en amont. Comme le collègue, l'auditeur vient de le dire, qu'il faudrait que l'on revienne sur ces assises parce que, vous avez suivi dans mon intervention, je vous ai dit que nous regrettons du fait que les assises ont eu lieu, mais il n'y a pas eu aucun mécanisme de suivi de tout ce qui avait été mis en application ou tout ce qui avait été ressorti des assises comme recommandation. Mais aussi, il faudrait aussi que nous puissions signaler qu'en dépit du fait que tous les conférenciers, tous les exposés étaient amenés magistralement de Kinshasa, au niveau de la base, on n'a pas pris en compte les grandes aspirations de ceux qui ont subi les faits. Ça aussi, c'est un aspect, nous ne devons pas ignorer cela. Donc, je suis parfaitement d'accord que, de toutes les façons, au jour d'aujourd'hui, nous avons intérêt à la paix. Le Kasaï central, autrefois oasis de paix, a besoin de la paix. Mais pour que cette paix soit acquise totalement, il faut l'implication de tous. L'implication de tous, c'est-à-dire tous les acteurs impliqués dans le processus de pacification. Parce que vous avez suivi, je suis très content de l'analyse de notre analyste qui vient de dire que, parce que jusque maintenant vous venez dans la question, vous nous dites, ce sont les présumés. Alors, jusque maintenant, sur le plan de la présomption, vous voyez déjà qu'il y a encore une doute qui s'installe. Alors, comme il y a cette doute-là qui s'installe, il y a moyen qu'on se demande maintenant, mais qui sont les vrais acteurs? Et le pouvoir public, il a toutes les compétences, il a l'autorité de pouvoir s'impliquer pour vraiment fouiller, refouiller, vérifier, pour voir qui sont vraiment les mécontents pour qu'aujourd'hui commence encore à semer la terreur dans la ville de Kananga. Perdre 4 militaires, les vaillants soldats, ils sont morts. Ce n'est pas chose facile. Et nous ne pouvons pas négliger cela parce que vraiment, c'est déplorable. Ce sont des choses que nous pouvons regretter, condamner.
Joseph Kachama. De la paix dans notre ville de Kananga.
Joseph Kachama, votre ligne se détériore. Essayez un peu de bouger. Essayez de bouger parce qu'on a du mal à vous suivre. Alors, vous avez évoqué dans votre première intervention une insécurité qui serait orchestrée par les militaires ou les pouvoirs publics. Il y a M. Timothée Soutcha qui a parlé des hypothèses, et notamment des stratagèmes, n'est-ce pas, des pouvoirs en place pour repousser les processus électoral. Et pendant cette période des processus électoral, c'est vrai que tous les événements, on a tendance, n'est-ce pas, à les lier au processus électoral. Et vous ne pensez pas que on risque d'exagérer un peu chaque fois quand il y a un événement qui se produit, on fait les liens avec le processus électoral, et nous risquons donc malheureusement de cette manière-là de fixer notre attention sur des choses imaginaires, et du coup nous restons dans la distraction pendant longtemps au lieu de chercher à connaître les vraies causes, n'est-ce pas, de toutes ces violences.
Guy Maté, je suis de cet avis-là. Je suis de cet avis parce que, comme l'analyste l'a dit là, ça peut être des stratagèmes parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà cap vers les élections. Les élections se pointent déjà à l'horizon. Et vous êtes sans ignorer que la province du Kasaï Central a été la dernière province à subir les opérations d'enrôlement des électeurs. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer, nous nous disons, est-ce que ce n'est pas une occasion pour que l'on dise actuellement peut-être qu'il n'y a pas moyen d'aller aux élections parce qu'il y a l'insécurité qui sévit encore au Kasaï. Raison pour laquelle nous disons que le pouvoir public a le plein pouvoir de pouvoir identifier le vrai cause. Si vraiment ce sont les présumés miliciens qui sont en train de semer la panique et la désolation dans la population, que le pouvoir public trouve par quel mécanisme il faut maîtriser ces miliciens. Et que si c'est le pouvoir lui-même qui est en train de tirer les draps pour voir que, pour tirer les choses en longueur, comme ce que nous assistons dans certaines villes du pays, vraiment c'est une attitude qu'il faut condamner, monsieur, c'est une attitude que nous ne pouvons pas soutenir jusqu'à maintenant.
Merci Joseph Kachama. Monsieur Timothée Soutcha, il y a aussi une réflexion pour vous, elle vient de Kinshasa.
Yves Poka à Kinshasa. La plus grande crainte, c'est celle de voir les pays sombrer dans une crise sans précédent avec cette énième attaque des Kamuina Nsapu, alors que la population attend des pieds fermes les élections cette année, étant donné que le gouvernement ainsi que la CENI se sont servis de la présence de ces derniers pour justifier la non-tenue des élections l'année passée. Il est fort à craindre que ces mêmes raisons soient évoquées cette année, car, dit-on, les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Monsieur Timothée Soutcha.
L'auditeur de Kinshasa a parfaitement raison, c'est ce que j'ai évoqué tantôt. Vous savez, à qui profitent les crimes, en fait, comme on a toujours posé la question. À qui profitent les crimes? À qui profitent toutes les évasions dans les prisons? À qui profite la disparition des demandes d'ASEMI? À qui profite la situation des ADF, le M23, au Nord Kivu, etc. À qui profite cela? C'est aux politiques qui justifient cela par le fait que je n'ai pas organisé les élections parce qu'il y a eu la guerre qu'il fallait finir, parce que je suis allé dépenser de l'argent au dialogue de Kananga, et que j'ai les justifié à l'ONU. À qui profite tout ça? Parce qu'en réalité, je persiste et je signe. La violence avec laquelle on a réprimé, on a anéanti la population Luba de Kamuina Nsapu, je vois difficilement ces gens se reconstituer aujourd'hui et arriver à menacer les installations stratégiques, les institutions stratégiques, qui sont par exemple les aéroports, etc., au niveau de Kananga, qui est encore dans la zone rouge. Cela est difficile. Cela est difficile parce que il faut dire un autre élément et le soulever. En politique, tout a été fait pour déstabiliser la grande province du Kasaï, les grands Kasaï. Parce que c'est de là que venait Tshisekedi, parce que c'est de là que vient l'UDPS, qu'il fallait détruire. Je ne suis pas politique, je suis loin de ça. Mais il fallait déstabiliser la province de l'opposant principal, déstabiliser son parti politique, le mettre dans les... Et finalement, venir en saper un papier. La situation de Kananga, il faut la surveiller de très près, parce que, comme je l'avais dit, il y a là la responsabilité des institutions de l'État et de leurs animateurs, de l'incapacité alors des services et des sécurités et des autorités politiques. Parce que si le dialogue de Kananga a pris en compte toutes les revendications et est allé chercher de véritables concernés, pas amener 3, 4, 5 tours d'avion de Kinshasa avec tous les membres recrutés à gauche à droite de la majorité présidentielle élargie,
et remplir la salle des Katanga, alors que le véritable concerné, les femmes des militaires, les femmes violées, les femmes, les enfants, ceux qui sont concernés, les plus qui sont en conflit, les Batete, les Batchokwe, les ceci, les Balouba, on n'a pas senti ceux qui étaient en conflit impliqués dans cette situation. Et on ne sait pas résoudre ce problème de cette façon-là. Et troisièmement, je parle de la complicité de l'État, parce que dans ce pays-là, on est habitué depuis 2013 à des colloques, et même au niveau des Nations Unies, des gens, des responsables qui s'expriment pour accepter qu'ils organiseraient des élections, mais arrivé aux dates, ils se posent des problèmes. On voit des épiphénomènes que personne ne sait s'expliquer et on repousse les élections au calendrier grec. Donc,
nous
sommes dans une situation qu'il faudrait bien surveiller, qu'on ne passe plus de la présomption à l'identification. On passe à l'identification réelle de qui ont fait quoi et de qui font quoi dans le cas du Kassai.
Voilà, vous avez, alors,
est-ce que nous serons la vérité en une seconde? Peut-être pas, parce que les autorités publiques empêchent toute enquête des justices indépendants pour avoir la vérité.
Voilà, vous posez...
comment se passe le procès de Kananga.
Timothée Zoutcha.
C'est difficile. Donc, nous sommes dans un espace où tout est bloqué, y compris dans le chaos que les institutions organisent avec leurs dirigeants.
Voilà, vous déplorez cette opacité sur toutes ces violences, n'est-ce pas, au Kassai, au Kivu. Et vous posez la question de savoir à qui profitent les crimes. Vous parlez de la complicité du pouvoir. Vous voulez dire par là que les pouvoirs comploteraient contre lui-même, parce qu'en fait, même si c'est une hypothèse qui pourrait être plausible, cette stratégie, n'est-ce pas, qu'il peut se retourner contre ses pouvoirs, parce qu'il faut savoir aussi que, à certains points de vue, toutes ces violences-là déstabilisent les pouvoirs.
Ces violences-là ne déstabilisent pas le pouvoir. Et effectivement, ça peut retourner contre, et ça va retourner contre le pouvoir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le pouvoir tire la dividende en termes de justifier les fonds qui sont dilapidés d'une part, en termes de repousse inédite et des élections, même pour les élections de 23 décembre 2018, je doute fort, retenez la date d'aujourd'hui. Et est-ce que, posez-vous la question, Guy Maté, où sont tous les évadés, des différentes prisons au Congo? Où sont-ils?
Timothée.
À qui profite? Parce qu'on parle des terroristes, Kamuina Nsapu. Où sont tous ces évadés?
Timothée.
Et à qui réellement profite?
Timothée Zoutcha, et au-delà, et nous allons commencer à conclure, n'est-ce pas, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Et qu'est-ce faut-il pour vous pour pacifier de façon durable l'espace kassaïen?
L'espace kassaïen aurait, la conférence aurait dû être préparée très bien pour impliquer toutes les couches sociales de la population concernées dans cette situation. Mais c'est une conférence de ceux qui ont alimenté le conflit de Kananga. Moi, je n'attendais pas grand-chose de cette conférence-là.
Merci, Joseph Kachama. Que faut-il pour pacifier de façon durable l'espace kassaïen, brièvement, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission?
L'espace kassaïen, nous proposerons que l'État congolais puisse assumer pleinement son rôle en garantissant la sécurité des personnes et de leurs biens.
Maître Adrien Ilobakoui, votre conclusion?
Oui, il faut dire que pour la solution durable, il faut commencer d'abord par la justice, parce que si la justice commence à sanctionner ceux-là qui avaient troublé l'ordre public, il y a lieu de revenir maintenant sur une vraie conférence pour trouver maintenant des solutions durables.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Claude Nsala qui était à la technique. Merci à Alain Irung et Donald Madimba sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Okapi.